Mesdames, messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Léo, je vous souhaite la bienvenue sur Radio Roisonne. Je suis ravi de vous retrouver pour l'émission numéro 6 de la saison 2 de Rond Central, votre rendez-vous football mensuel tous les premiers mercredis du mois. On n'est pas le premier mercredi du mois, vous l'aurez compris. C'était la semaine dernière. Il y a eu certaines circonstances qui ont fait que. Mais voilà, on décale d'une semaine, on est là, on ne déroge pas. Au moins, l'émission mensuelle, elle est là comme d'habitude. Hein. Pour m'accompagner pour cette émission, j'ai le plaisir de recevoir un nom qui a sillonné la France lors de son parcours de footballeur professionnel. Déjà, dans un premier temps, il est passé par le Stade Rennais au début de sa carrière. Il a connu également le Stade Brestois, le club de Sedan, l'AS Nancy-Lorraine ou encore le Stade Briochin de Saint-Brieuc, d'où il est originaire. C'est là où il a terminé sa carrière. Aujourd'hui, il est reconverti entraîneur de football. Il me fait plaisir de m'accompagner ce soir pour une discussion justement autour du football. Pierre-Yves David est avec moi. Salut Pierre-Yves, bienvenue sur Radio Roisanne.
Merci Léo, bonsoir à tous.
Comment tu vas?
Bah, très bien, heureux d'être avec toi et de pouvoir échanger, de parler football.
On va prolonger nos échanges qu'on peut avoir chez notre ami François Rosy qu'on salue.
Tout à fait.
Merci hein, d'avoir accepté cette invitation. Ce que je disais, justement, on va prolonger ce plaisir des émissions qu'on a déjà pu faire ensemble. On parlera un petit peu moins Stade Rennais, mais on en parlera tout de même. Il y a deux, trois choses à dire, deux, trois choses que je pourrais vouloir évoquer avec toi. Et puis, on va surtout se concentrer voilà, sur toi, ton passé de footballeur professionnel et puis ton actualité d'entraîneur. Puis d'ailleurs, pour l'anecdote, pour celles et ceux qui nous écoutent ce soir, d'ailleurs, je vous souhaite à toutes et tous la bienvenue. Hein, n'hésitez pas, vous connaissez le principe de l'émission, c'est interactif. Donc, participez dans le chat et puis on fera en sorte... Je ferai en sorte, si vous avez des questions pour Pierre-Yves, de les sélectionner pour justement lui les adresser. Et ce que je vous disais, pour l'anecdote, on devait faire cette émission bien plus tôt dans la saison. Mais bon, les aléas font qu'on a dû attendre. Mais finalement, bah, tout vient à point. À qui sait attendre. Pierre-Yves, si c'est bon pour toi, bah, écoute, le programme est très simple. C'est une émission en trois parties, comme je te le disais par avant. 45-50 minutes à peu près. On démarre avec le coup d'envoi, qui est la rubrique un petit peu signature de l'émission. Question simple, réponse très simple. Pour commencer, je vais te demander de me donner ton nom, ton prénom et ton âge, s'il te plaît.
Alors, David Pierre-Yves, 57 ans.
Est-ce que, en quelques mots, parce qu'on reviendra un petit peu dessus après, tu peux nous faire connaître ton parcours scolaire?
Scolaire. Alors j'ai fait l'école primaire et le collège dans un village, enfin une petite ville, un bourg, du centre des Côtes d'Armor, qui s'appelle Plug-sur-Lier. Je suis rentré au lycée quand j'ai eu la chance de rentrer au lycée Bréquigny en sport-études à l'époque. Oui. Et donc, c'est là que j'ai signé au Stade Rennais en jeune. J'avais 16 ans à l'époque. Oui. Et parce que les centres de formation n'étaient pas ce qu'ils étaient. Donc, le lycée Bréquigny accueillait beaucoup de joueurs de mon profil et beaucoup jouaient au Stade Rennais. Mais il y en avait aussi du FC Lorient, de Brest, etc. Et quand j'ai eu mon bac au bout des 3 ans de lycée Bréquigny, j'ai eu mon bac et donc je suis rentré en STAPS, enfin on disait l'UREPS à l'époque à Rennes. Okay. Et ça m'a permis de continuer à jouer au Stade Rennais, de poursuivre mes études.
Ok. Fais attention sur la prochaine. Christophe Lolichon, que tu connais bien, s'est honteusement trompé. C'est quoi ton club de cœur, Pierre-Yves?
Ça me rappelle les questions de François Rosy, les top et les flops. Je suis un affectif et comme dans tous les clubs où j'ai pu jouer ou entraîner, ça s'est bien passé. J'ai une affection pour l'ensemble des clubs dans lesquels j'ai évolué. Après, si je dois dégager un club professionnel, ce sera le Stade Rennais quand même.
Ah, alors tu vois, je franchement, je disais ça pour te taquiner parce que, bien évidemment, Christophe m'a répondu Nantes. Mais je pensais, parce que si je te dis pas de bêtises, hein, t'as passé le plus de temps de ton parcours pro à Sedan.
J'ai passé 2 ans et demi. Je pensais que tu allais me dire le Stade Brestois, enfin à l'époque le Brest-Armorique, parce que
oui.
Même si j'ai beaucoup d'affection pour le Stade Rennais, mais finalement le Stade Rennais m'a pas donné l'opportunité de devenir joueur professionnel. Il a fallu que ce soit le Brest-Armorique qui me propose à 23 ans. Alors c'est vrai que, comme je te disais tout à l'heure, comme je poursuivais mes études au Stade Rennais à l'époque, sur les 2 dernières années notamment, j'étais sous ce qu'on appelait un contrat promotionnel, qui me permettait d'être rémunéré un petit peu. mais surtout pouvoir poursuivre mes études. Et donc voilà, peut-être qu'il y avait de la facilité pour le club à avoir un joueur, mais ça m'a certainement bloqué puisque je n'ai aucun match professionnel avec le Stade Rennais. Par contre, j'ai été pendant une ou deux saisons le capitaine de l'équipe réserve jouée à l'époque en troisième division de Patrick Rampillon. Malheureusement, je n'ai pas pu jouer en pro au Stade Rennais, ça c'est un grand regret, mais c'est quand même le club. Voilà, Rennes, c'est 7 ans de ma vie, voilà, donc
Ouais, bien sûr.
ça marche.
On reviendra. Tu t'as évoqué justement un point que je voulais évoquer avec toi, hein, par la suite, justement sur cette particularité que tu as connue du contrat promotionnel. Mais on reviendra dessus un petit peu plus tard. C'est quoi ton joueur de cœur, Pierre-Yves? C'est qui pour le coup, ton joueur de cœur?
En activité?
Pas forcément.
Alors, bah, Johan Cruyff.
Ok, très bien. Quel est ton meilleur souvenir de foot? Ça, alors, ça peut être en tant qu'entraîneur, en tant que joueur, en tant que rien du tout quand tu étais gosse. Ça peut vraiment, tu peux prendre ce que tu veux.
Et là aussi, ils sont multiples, hein.
Allez,
Alors,
pléthore.
si tu fais un tri rapide, là, à mon âge, ça devient difficile. Les souvenirs sont nombreux. En même temps, c'est peut-être le pire.
Ouais.
Et le meilleur à la fois, c'est mon premier match en première division avec le Brest Armorique
Ouais.
à Geoffroy Guichard. Et de mémoire, je crois qu'on a pris 6 à l'époque des Mourachic, Mendy et compagnie, Philippe Tibeuf.
Beau.
Ça a été une sale journée, mais en même temps, c'était mon premier match en première division. C'était
Et ça marque.
bon, ça marque, ouais. Et puis le côté dramatique du match en termes de résultats,
Bien sûr.
ça marque d'autant plus, ouais.
Et vous en avez pas marqué un seul?
C'est possible, je crois que c'est 6-1, t'as peut-être raison,
Ouais.
6-1, je crois.
L'honneur est sauf, on dira. Bah,
Je pense que
justement,
David,
pas.
t'as raison, je crois que c'est David Ginola qui avait dû marquer. Ouais.
Je mets toujours un point d'honneur à faire des analogies. Et là, en l'occurrence, bah, je t'ai demandé ton meilleur et j'ai pour habitude de demander le pire derrière, mais au moins là. Est-ce que c'est aussi le match le plus marquant? Parce que du coup, ça peut être positif comme négatif. J'imagine que oui, si c'est le premier match de ta carrière, mais peut-être que tu as un match qui t'a encore plus marqué quand tu étais dans le football, entraîneur comme joueur.
Ouais, celui-ci a été marquant parce que après ce match-là, comme je jouais en défense et qu'on avait pris 6 buts et que c'était mon premier match, je me suis dit je vais sauter quoi. Enfin
Bien sûr.
voilà, l'issue me semblait inéluctable. Et finalement, j'ai continué à jouer encore les matchs suivants. Non, après le match le plus marquant, c'est avec l'équipe de France universitaire. J'ai eu la chance de faire les Universiades en 1987. En Yougoslavie, avant que la Yougoslavie n'explose, à Zagreb, et un match contre les Uruguayens. Alors nous, on avait une vraie équipe universitaire. Après beaucoup de nations, les universitaires, pour que les gens se comprennent bien, c'est les Jeux Olympiques universitaires. Moi, j'ai déjeuné à table, par exemple, avec Matt Biondi,
Ok.
nageur. Enfin, j'ai croisé des athlètes de très très haut niveau lors de ces universiades. Et donc on joue contre les Uruguayens et je n'ai jamais vécu un match aussi violent. Je ne sais pas si enfin toi tu es jeune, mais en 1986 déjà la sélection uruguayenne à la Coupe du Monde au Mexique avait été très très très, elle était très dure sur le
Ouais.
terrain. Et donc nous en universitaire on avait joué les espoirs uruguayens et à l'époque je jouais avant-centre. Mon maillot a fini en lambeaux. J'ai pris des. Je n'ai jamais vécu un match aussi violent. Mais violent, violent. Et d'ailleurs, il y avait un Rennais de l'époque avec moi, qui était Thierry Turban.
D'accord.
Et je ne sais pas si Thierry se souvient de ce match-là, mais la vache, ça avait été sévère.
Et donc c'est le match le plus marquant aujourd'hui de ta carrière de footballeur.
Par la violence, ouais.
Ouais,
Avec les
intéressant. Ok.
réglementations
Ouais.
arbitrales maintenant, les Uruguayens, ce jour-là, voilà,
Bah déclare forfait quoi. Quand tu
l'arbitre était
termines pas.
obligé d'arrêter le match.
Ok. Est-ce que tu joues encore au foot pour le loisir? J'ai ouï dire que tu avais d'autres activités,
Oui.
mais est-ce que tu joues encore au foot un petit peu pour le loisir?
Non.
Non.
J'ai juste été invité récemment à faire un soccer sur Rennes avec des anciens joueurs que j'avais à Saint-Malo. Ils m'ont invité.
Ouais.
J'étais très très heureux. J'avais qu'une peur, c'est de me blesser, mais je me suis pas blessé. Et l'équipe dans laquelle j'étais a gagné, donc tout va bien. Mais dès l'instant que je suis devenu entraîneur à 32 ans, j'ai arrêté de jouer, quoi. Voilà. Pour moi, les deux étaient incompatibles. Et même si j'ai donné, lorsque j'étais entraîneur à Châtellerault, j'ai donné un coup de main à l'équipe 3 qui évoluait à l'époque en DRH, je leur avais dit, je vous donne un coup de main, mais je veux juste jouer avant-centre. Voilà.
Justement. C'est la question que je voulais te poser, c'est si en gros tu étais amené à rejouer un petit peu au foot pour le plaisir, est-ce que tu accepterais qu'on te mette en défenseur central ou est-ce qu'il fallait absolument que tu ailles ailleurs?
Aujourd'hui, je pense que je me calerais facilement en défense centrale. À l'époque, j'avais encore des jambes,
Ouais.
du coffre au niveau athlétique,
Okay.
et j'ai toujours été. Enfin, quand j'étais joueur, j'étais un joueur puissant, rapide. Et voilà, avant mes 40 ans, jusqu'à mes 40 ans, jouer devant, c'était pas un problème encore. Ça, je pouvais le faire. Voilà.
Ok, ça marche. Pierre-Yves, t'es né le 24 février 1967 à Saint-Brieuc dans les Côtes-d'Armor. La
Oui.
première question, moi, qui me taraude un petit peu, c'est de savoir comment le football il est arrivé dans ta vie. Est-ce que c'est une transmission familiale qui t'a été partagée, que ce soit de ton papa, de ta maman, de ton ou tes frères ou sœurs, de quelqu'un d'autre, ou est-ce que c'est toi qui t'es découvert en fait une passion qui n'était pas forcément partagée par tes proches? Comment tout ça s'est un petit peu orchestré?
C'est familial, avec mon papa qui était joueur de foot à Pleuc-sur-Lys, justement.
Ok.
Une petite anecdote sur Pleuc-sur-Lys, il faut savoir qu'au milieu des années 70, quand Guingamp a commencé son ascension inéluctable jusqu'à la deuxième division, le match de la montée s'est joué à Pleuc-sur-Lys. C'est-à-dire que Pleuc-sur-Lys pouvait monter aussi en DH à l'époque, c'était en DSR.
Ok.
Et quand je vois malheureusement le cursus de l'an avant de Guingamp et celui de la Plecoise, c'est diamétralement opposé.
Oui.
Mais donc mon père jouait un peu dans ce club qui s'appelait la Plecoise, et il était aussi dirigeant. Donc je suivais tous les matchs du week-end, et je jouais déjà à la Plecoise. J'ai démarré à l'école de foot à la Plecoise, et j'étais moi j'adorais ça comme beaucoup certainement. Mais j'adorais tellement ça que quand l'équipe première reprend une saison, je devais avoir même pas 10, 11 ans. L'équipe première de Pleuc, donc, était en DSR, je pense, à l'époque, ou en DRH, elle était peut-être descendue. Je me suis présenté à l'entraînement de l'équipe première, à la reprise l'été, persuadé que que j'allais pouvoir jouer, quoi. Voilà. Et
Ouais.
j'avais 11 ans.
Ouais, bah oui.
Et ils m'ont accepté dans l'entraînement.
C'est vrai?
Sauf que le premier entraînement, il y a un bois qui s'appelle chez moi le bois de Mariala. Et
Ok.
puis, évidemment, premier entraînement, on a couru, on est allé dans le bois, les gars ont fait des exercices athlétiques. Là, je me suis dit, mince, je m'attendais à autre chose. Et puis, je m'étais pas dégonflé. Ouais, je crois que j'avais 11 ans. Je me suis présenté à l'entraînement de l'équipe première. Et l'entraîneur de l'époque, Henri Hirel, m'a gentiment accepté dans les rangs, et les gars me regardaient amusés, et disaient, celui-là, il a un toupet incroyable.
Bah, il se demandait ce que tu faisais là, quoi.
Ben ouais, ben j'étais persuadé que j'avais ma place, moi, je
Bah,
pensais.
comme quoi, non
Voilà.
mais tu vois, comme quoi, franchement, quand on force un petit peu, on peut justement forcer le destin, hein.
Ouais, ben je crois que la timidité m'a gagné après, hein, parce que là,
Ah ouais.
cet effet-là, c'est pas.
C'est pas vraiment réapparu par la suite, mais sous une autre forme, quoi.
Voilà, et quel
Ok.
que soit, là je parle du football, mais dans d'autres domaines de la vie, jamais je me serais permis de faire une chose pareille.
Je comprends.
Par la suite.
T'allais au stade quand t'étais petit, du coup? Je dis au stade, tu sais, dans des stades pro, tu me parlais de l'an avant de Guingamp, par exemple, t'étais amené, par exemple, à aller au Roudron?
Alors, le premier gros stade, c'était le stade Briochin, qui était en troisième division. On allait quasiment tous les samedis soirs à domicile avec mon père. Il avait deux copains qui l'accompagnaient.
Ouais.
On allait très très souvent au match du stade Briochin, à l'époque des Roger Rabais, Fofana, Pierre David, qui était quelqu'un du même bourg que moi, de Pleuc-sur-Lys.
Ouais.
À l'époque, Roger Gilles aussi, qui avait joué à Pleuc et qui était parti à Guingamp, et puis qui avait joué au stade Briochin. Enfin, beaucoup, beaucoup de Jean-Luc Bocquenay. Enfin, voilà, c'est une équipe que j'ai suivie énormément, notamment jusqu'à 1978. Donc, j'avais 11 ans, à l'époque où l'AS Nancy-Lorraine gagne la Coupe de France, et j'ai eu la chance de voir le match de Coupe de France, Stade Briochin, Nancy.
Ouais.
Et il faisait un tel froid, une telle pluie verglaçante, que Michel Platini, qui à l'époque n'avait pas le numéro 10, mais le numéro 9, a taclé devant les buts de Roger Rabet et il n'a pas pu couper la trajectoire du ballon. Et il est arrivé au pied du panneau publicitaire et moi j'étais juste derrière et je l'ai touché. Donc j'ai mis ma main à travers le grillage
Pour
et j'ai touché
toucher
le dos
Michel.
de Platini. Et je peux te garantir que les 10 jours qui ont suivi,
Tu t'es pas lavé la main?
si ça, à la maison j'étais obligé,
Ouais.
mais j'ai dû en parler. Ça devait être le seul sujet de conversation que j'avais sur les 10 jours qui ont suivi, quoi.
Bah, mais quand t'es gosse, c'est normal, hein. Quand moi je me revois encore dans mes jeunes années à aller au feu stade de la route de Lorient, là où j'étais placé, bah, jusqu'à ce que je me fasse déloger il y a de ça 2 ans, bah, j'avais les loges derrière moi. Il y avait très souvent des joueurs pros qui étaient là. Et je me rappelle avoir serré la main de Sylvain Marvaux, Kader Mangan, enfin plein de mecs. Et pour le coup, moi, tu vois, genre, je voulais ne pas me laver la main pendant, mais ça pouvait être 3-4 jours. Je finissais par me faire engueuler et je passais au bidet. Quand est-ce que tu as compris, Pierre-Yves, que le foot, hein, ce serait, t'en ferais un petit peu ta vie, t'en ferais ton métier, déjà dans un premier temps en tant que joueur? C'est quelqu'un qui t'a ouvert les yeux sur justement ta qualité, ou c'est toi qui t'es aussi progressivement rendu compte que je suis au-dessus des autres sur certains aspects?
Ouais, tout ça, c'est fait par étapes.
Ok.
La première étape, ça a été de quitter la Pleukoise pour rejoindre l'AS Jeanglin-Cesson, qui est un club quartier de Saint-Brieuc,
De Saint-Brieuc, ouais, tout à fait.
mais qui à l'époque produisait énormément de très bons joueurs, parce que je crois que sur 4 ou 5 années civiles d'affilée, je crois que ça démarre 1964 jusqu'à 1960. Non, plus, un peu plus, ouais, 71, Gilles Bourges a dû être le premier. Enfin, on a été 9 joueurs à passer professionnel. Donc Gilles Bourges a été le premier. Il a d'ailleurs joué au Stade Rennais, un gardien de but, qui est l'entraîneur adjoint actuellement de Olivier Frappoli à Laval. Et Gilles a ouvert la voie. Voilà, il y a eu les frères Furman, il y a eu mon frère et moi, Patrice Collat, Jean-Michel Éhouzan, et j'en passe. Je crois que de mémoire, on a été 9. Donc j'ai rejoint ce club-là qui performait et qui avait une attention particulière pour sa jeunesse. Et puis voilà, c'est crescendo. Je me souviens aussi de mes premières détections,
Ouais.
mais j'étais loin de beaucoup. Je jouais par exemple avec des garçons qui, quand on faisait les tests techniques, je voyais que j'étais largué. Donc par contre, quand je faisais ce constat-là, je travaillais énormément derrière. Par exemple, la première fois que j'ai participé à un test de jonglage, j'ai dû faire 34 du pied droit, j'ai dû faire 11 du pied gauche, j'ai dû faire 4 têtes. Et le garçon qui passait juste avant moi jouait à Jeanglin et lui faisait 50 à droite, 50 à gauche, 50 têtes.
Ouais.
Et donc là, j'ai compris que quand j'étais à la maison, je passais mon temps à jongler, enfin surtout les. Voilà, après, j'avais d'autres qualités au niveau athlétique, sur la vitesse, des choses comme ça. Mais au niveau technique, il a fallu que je me prenne en charge. Après,
OK.
voilà, après, les choses sont. Donc, je suis sorti de ce club-là. Et puis après, l'étape suivante, ça a été de quitter Jeanglin-Cesson pour le Stade Rennais et rentrer en sport-études. Ça a été. Voilà, j'avais 16 ans. Et c'est là que je me suis dit, bon, il y a une porte qui s'ouvre. Voilà, j'étais certainement pas le plus doué de cette génération-là.
Ouais.
Je me considère comme un laborieux, mais c'est pas péjoratif, hein. Pour moi, les laborieux, comme dit Alain Souchon dans une de ses chansons, j'aime les gens qui sont ce qu'ils peuvent. Voilà, les laborieux, on est obligé de travailler.
Tu t'es
Voilà,
battu.
le talentueux, il prend des options, puis ça fonctionne. Voilà, et tant mieux pour eux. Mais voilà, mais heureusement qu'on n'est pas tous faits dans le même moule. Ça permet d'avoir aussi sa chance, même quand on est un laborieux. Et c'est cette dimension-là qui m'a obligé à travailler pour devenir joueur professionnel, mais aussi pour devenir entraîneur.
Ok. Alors, on parlait justement de ton cursus un petit peu précédemment et du fait que tu n'as jamais pu passer joueur professionnel sous le maillot du Stade Rennais. Qu'est-ce que justement le contrat promotionnel aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'existe plus.
Non.
Comment, en gros, enfin, comment tu pourrais expliquer à quoi ça pourrait correspondre aujourd'hui un contrat? Est-ce que ça correspond à comment dire, un contrat de stagiaire pro?
Pas
Un
du
petit
tout.
peu? Pas du tout? Alors
Non, parce que
justement, je veux bien que tu m'expliques.
Tous les contrats actuels sont des contrats de travail.
Ouais.
Comme n'importe quel contrat de travail, tu cotises sur toutes les lignes du bulletin de salaire
Ouais.
que l'on peut trouver sur un bulletin de salaire. Le contrat promotionnel, par exemple, je cotisais pas pour la retraite, je cotisais pas pour la Sécu. C'était juste un document qui permettait à un club de justifier une rémunération à un joueur sans
D'accord.
qu'il y ait un contrat de travail. Et
D'accord.
ce contrat-là permettait, pour quelqu'un comme moi, de poursuivre ses études. Je touchais un peu de bourse à l'époque, et plus l'enveloppe du Stade Rennais, ça me permettait de me loger, de me nourrir et de poursuivre mes études et de jouer à un niveau, somme toute correct, qui était la troisième division à l'époque. Enfin, pas les premières années quand je suis arrivé, mais très vite, en troisième division avec Patrick Rampillon. J'ai fait plusieurs saisons. Et c'est vrai que ce contrat promotionnel on cotisait sur rien, quoi. C'est juste un document qui permettait au club et aux
De
joueurs
justifier.
de justifier une rémunération.
Ok. Tu changerais un truc dans ton parcours aujourd'hui ou pas? Si tu devais changer quelque chose.
Oui, plein de choses, ouais, certainement. Voilà. Après,
Alors,
il y
la
a des gens
chose
qui me
principale,
voient.
vraiment le truc qui aujourd'hui te dit, si je l'avais fait, j'aurais vraiment pris une voie ascendante complètement différente.
Je pense, c'est le fait que je quitte la Nancy Lorraine pour Perpignan. Voilà,
Ok.
comme je suis quelqu'un de parole, c'est vrai que à Nancy, quand j'ai quitté Sedan, je n'ai signé qu'un an parce que le club à Nancy avait des soucis déjà avec la DNCG.
Ouais.
Et donc, j'avais fait un contrat, mais je voulais tellement jouer à Nancy que, voilà, contrat pas très élevé en termes de rémunération. Et sur une durée très courte, parce qu'il y avait des inquiétudes de ce point de vue-là. Voilà. Mais les dirigeants avaient été clairs avec moi. Et j'ai eu l'occasion, d'ailleurs, je l'ai eu hier au téléphone, de rencontrer Laszlo Bologny, qui est entraîneur du Stade Rennais également.
Bien
Et
sûr.
avant-hier, c'était son anniversaire, donc je l'ai appelé. Et c'était le premier poste en tant qu'entraîneur professionnel de Laszlo Bologny. J'ai vécu une saison extraordinaire à Nancy avec lui. D'ailleurs, on en reparlait au téléphone ensemble.
Ouais.
Et puis, il était convenu que le club, en cours de saison, me propose une prolongation. Et c'est certainement, plus en tant que joueur, la meilleure saison que j'ai faite, c'était à Nancy.
Ouais.
Et puis, quand tu fais une bonne saison, tu es sollicité. Et comme à Nancy, ils avaient du mal à avancer sur le sujet, puisque des inquiétudes au niveau financier. Et à un moment donné, j'ai du mal à resituer, mais je pense que ça devait être mars, avril. J'ai accepté verbalement les conditions d'un club qui était Perpignan à l'époque. Pour schématiser, on doublait mon salaire, quoi. Donc
Okay.
c'était, voilà, contractuellement très intéressant, mais je sentais
Évidemment.
au fond de moi, je ne voulais pas quitter Nancy. Je voulais rester à Nancy.
D'accord.
Et le regret, c'est d'avoir succombé à la dimension contractuelle. Et pour le coup, j'ai eu un regret sportif derrière.
Ouais.
Parce que l'année d'après, Nancy monte en première division et j'avais un réel attachement à Laszlo Bologny, au club, à l'AS Nancy Lorraine. Je m'y étais fait beaucoup d'amis, y compris chez les supporters.
Ouais.
Et de partir a été un vrai déchirement. Et surtout, je suis arrivé dans un club où, au niveau de l'état d'esprit, je m'y suis pas retrouvé complètement. Pas avec les joueurs, avec les joueurs à Perpignan, c'était extraordinaire aussi. Mais l'atmosphère générale, quoi, ça me convenait pas. Ça me convenait pas.
D'accord. Ok. Mais alors, ça te convenait pas parce que c'était des personnalités, ça ne convenait, enfin, ce n'était pas que
Ouais,
au rapport aux joueurs, c'était à l'encadrement, l'organisation, en fait, tout de manière générale ne collait pas, quoi.
c'était le contexte ne correspondait pas à ce que j'attends, voilà, d'une
D'accord.
manière complète. Voilà. Après, je me
Ok.
répète, avec les joueurs, les Mazzucchetti, les Daniel Lou, les Dangbeto, Christophe Gardier dans les buts, Cruset, enfin, on a passé des moments extraordinaire, c'était des super mecs.
Ok.
Et d'ailleurs, ça a été le meilleur classement que le FC Perpignan n'a jamais eu en deuxième division, parce que je crois qu'on a dû finir cinquième ou sixième. Et je pense honnêtement que si on avait travaillé dans un autre contexte avec cette équipe-là, quand je comparais avec Nancy, s'il y a un peu plus de rigueur,
On
avec
aurait pu
cette
monter plus haut.
équipe-là, on devait monter. D'ailleurs, Christian
Ouais.
Gourcuff, à l'époque, était avec le FC Lorient. Et je me souviens qu'au match aller, on avait gagné 3-1 ou 3-0 au Moustoir. Et il avait été impressionné par notre équipe. Impressionné par notre équipe. Mais
Parlons justement, vas-y, je t'en prie, termine.
on n'a pas
Mais ça,
travaillé assez.
mais
On n'a pas
ok.
travaillé assez. Voilà.
Parlons un petit peu plus spécifiquement justement de ton rôle sur le terrain. Toi, tu étais le temps de ta carrière professionnelle en tant que joueur, un défenseur central. C'était un choix de cœur depuis le plus jeune âge de jouer à ce poste-là, ou c'est l'expérience du foot et justement les étapes dans ta connaissance du football qui bah, t'a amené à te repositionner à ce poste-là? Comme ça peut aujourd'hui arriver en cours de formation des joueurs, hein, sur les jeunes. On a des joueurs qui commencent à certains postes et qui au final sont replacés parce qu'on leur trouve des qualités à d'autres postes. Comment ça s'est passé pour toi?
Ben, ça a été des différents chemins de traverse, parce que je crois avoir joué à tous les postes, y compris gardien de but, en
Ok.
match officiel. Donc,
D'accord.
même si en gardien de but, c'était à Sedan, sur un match de Coupe de la Ligue, parce qu'à l'époque où je jouais, il n'y avait que 13 joueurs sur la feuille de match, il n'y avait que deux remplaçants. Donc, les
Ok.
places étaient très chères. Et contre le LOSC, quand notre gardien se blesse à 10 minutes de la fin, et j'ai joué les 10 dernières minutes, un match officiel, donc de Coupe de la Ligue, dans les buts. Donc j'ai même joué ce poste-là. Non, après, c'est en jeune, quand j'étais à Jeanlin-Cesson, je jouais en défense centrale,
Ouais.
alors que j'étais plutôt un milieu de terrain à la base, mais le club pensait que pour moi et pour eux, c'était mieux que je joue à ce poste-là, en défense centrale. Et quand j'ai fait le concours d'entrée, justement, pour le lycée Bréquigny, pour la section sport-études, j'avais des sélections départementales et avec la Ligue de l'Ouest déjà à l'époque.
Ouais.
Et Rémi Redoux, qui était le CTR et de la Ligue on disait la Ligue de l'Ouest à l'époque, on ne disait pas la Ligue de Bretagne. Et Gérard Bousquet, qui était responsable de la section sport-études, me connaissait déjà. Et puis, quand on a fait des matchs lors du concours d'entrée, il y avait un déficit d'attaquants. Donc, on m'a fait comprendre qu'il fallait pas que je m'inquiète, que j'allais être pris. Et on m'a demandé de dépanner pour jouer devant.
Okay.
Et puis, j'ai tout cassé. J'ai marqué des buts, voilà. Et donc, du coup, en rentrant en sport études, je suis finalement pas rentré comme défenseur, mais comme attaquant. Et on a été champion de France, d'ailleurs, sur parce qu'il y avait un championnat de France des sports études à l'époque. On était champion de France, et je jouais avant-centre. Voilà. C'est pour ça que, au Stade Rennais, je n'ai connu que le poste d'avant-centre.
D'accord.
Voilà. Et il a fallu que je parte au Brest Armorique.
Pour justement être positionné.
Pas du tout.
Même pas, d'accord.
C'est que
Ok.
j'arrive, je joue attaquant, je suis recruté comme attaquant. On m'a proposé un contrat pro de 4 ans à ce moment-là. Donc c'est pour ça que tu vois, le choix était vite fait de quitter le Stade Rennais pour aller au Brest Armorique.
Bien sûr.
Et d'ailleurs, j'ai stoppé mes études. J'ai eu ma licence, mais j'ai pas pu faire la quatrième année. D'ailleurs, j'ai une pensée émue pour mon prof de l'époque qui était Jean-Claude Trotel à l'UREPS.
D'accord.
Qui m'a énormément apporté sur le plan footballistique, en termes de réflexion sur le jeu, hein, juste la notion de jeu, le rapport de force qui s'établit entre deux équipes.
Ouais.
Et Jean-Claude a été malade, puis est décédé, donc j'ai pas pu à distance continuer le cursus qui était le mien. Donc, en signant pro à Brest, j'ai finalement stoppé mes études et voilà, je me suis lancé pleinement dans la carrière de joueur. Et donc, j'ai fait un très très bon début de saison avec le Brest Armorique. J'étais effectivement remplaçant parce que la ligne d'attaque à l'époque était composée de Ginola, Ferrer, il y avait Cloarec, Salin. Il y avait un petit jeune qui pointait le bout de son nez, c'était Guivarch. Et puis finalement, j'ai fait mon trou. Et puis je crois que c'est le dernier match de préparation. On devait jouer contre le FC Nantes. Alors, je ne sais plus si c'était à la Boule ou à Pornichet. Et à l'échauffement, donc je démarre le match. Donc ça sous-entend que si je démarre le match, la première journée de championnat, je risque d'être titulaire.
Ouais.
Et c'est Bruno Pabois, un partenaire du Brest Armorique, qui m'appelle en me disant Pierrot, son ballon arrive vers moi, donc je me retourne et je le renvoie de volée. Et c'est le seul pépin musculaire que j'ai eu. Là, j'ai eu un claquage du quadriceps à droite, énorme. Donc j'ai pas pu démarrer la saison et je suis revenu qu'en novembre, pour te dire que le claquage avait été
Violent.
était très, très très sévère. Et c'est le seul pépin musculaire que j'ai eu dans toute ma carrière. Mais il m'a. Voilà. Et quand je suis revenu, j'ai fait beaucoup d'efforts. Et le coach de l'époque était là, Slavo Muslin, qui avait un adjoint yougoslave aussi, qui était M. Nedeljkovic. Lui, l'adjoint, il avait repéré mes qualités athlétiques de vitesse, détente, puissance, et il s'était mis en tête. Suite à un match d'essai, un match amical contre l'En Avant de Guingamp, ils m'ont testé arrière droit.
OK.
Et puis voilà, j'ai commencé arrière droit en première division avec le fameux match à Saint-Étienne. Et puis j'ai été replacé quand j'allais jouer la réserve du Brest Armorique, que je jouais plutôt en défense centrale. Et puis c'est là que je me suis découvert de l'aisance sur ce poste-là.
Ouais.
Et j'ai fait tout le reste de ma carrière en défense centrale, sauf une demi-saison où j'ai joué milieu de terrain à Sedan pour dépanner aussi, parce qu'il y avait
OK.
des blessures. Voilà.
Tu parlais des qualités justement qu'on t'a trouvées, hein, vitesse, détente. C'est quoi aujourd'hui? Enfin, justement, c'était certainement les qualités essentielles pour être un bon défenseur central à l'époque, mais est-ce que selon toi, il y a des qualités essentielles qui ont évolué, qui sont différentes entre ces deux époques-là?
Alors, quand je parle de ces qualités, c'était celles qui étaient au-dessus des autres. J'avais une très bonne technique, mais sur les
Ouais.
fondamentaux, ce que j'appelle les fondamentaux contrôle passe.
OK.
Voilà, j'étais pas un grand dribbleur, j'avais pas beaucoup de feintes dans mon jeu. Voilà, mais sur les fondamentaux, j'ai toutes mes prises de balles, tous mes types de passes, courts, longs, pied droit, pied gauche, j'avais aucun souci avec ça. Donc, aussi
Machine
pour un
à
défenseur
machine à
central.
ouais machine à laver quoi.
Voilà, ouais, c'était mon fond de commerce, il était là, au niveau athlétique et une technique sur les fondamentaux presque irréprochable.
D'accord, ok. Comment on gère, parce qu'aujourd'hui on parle souvent de l'aspect mental des joueurs au travers de la médiatisation du sport hein, qui a explosé de manière exponentielle entre ton époque et aujourd'hui. Quid justement de la pression? Comment toi tu gérais la pression des matchs que ce soit du coup dans ta jeunesse, au début de ta carrière ou par la suite? Est-ce que t'as eu toujours un petit peu cette même pression, ou à la fin c'était quelque chose que tu gérais entre guillemets parfaitement et tu t'en faisais
Non,
abstraction?
c'est quelque chose que j'ai géré très facilement. Je ne me souviens pas avoir le ventre noué,
Ouais.
jouer ce qu'on appelle vulgairement jouer le match avant. Non, j'étais très. Mais je pense que c'est lié aussi forcément à ma personnalité. Je savais les process que je mettais en place dans l'entraînement à titre personnel et puis en connexion évidemment avec le reste de l'équipe et donc sur la dimension collective. Et donc rien que ça, moi ça c'était suffisant et rassurant pour moi. Donc je n'avais pas d'inquiétude. Voilà, et je souviens de faire des matchs. On parlait de Nancy quand on joue en quart de finale de Coupe de France contre le PSG qui cette année-là gagne la Coupe des Coupes et la Coupe de France d'ailleurs. Je sens qu'autour de moi j'ai des partenaires qui sont fébriles et pour le coup moi je fais mon match et même mieux que mon match je sors une grosse performance
OK.
et ce jour-là je l'ai mesuré, j'ai vu l'impact que au niveau émotionnel dans la gestion des émotions effectivement dans un vestiaire de bidule à machin ça peut c'était très variable
Bien
et moi
sûr.
j'ai jamais eu de souci avec ça
Et
sincèrement.
tu parlais des process justement que tu pouvais connaître, tu pouvais mettre en place sur les entraînements, etc. Tu avais des rituels ou des routines, toi, avant les matchs pour justement, je vais pas dire te servir de ça comme exutoire de pression, mais quelque chose qui, ouais, effectivement, te permettait, un truc bien précis qui te permettait de décompresser.
Oui. Alors déjà, bon, je me souviens qu'on m'avait posé la question de savoir si j'étais superstitieux. Voilà. Donc j'ai toujours répondu non, je ne suis pas
Ouais.
superstitieux. Par contre, je suis un rituel. Voilà.
OK. Ouais.
Donc les gens s'en accommodent. Donc le rituel pour moi, c'était effectivement de mettre la chaussure droite, la chaussette droite à l'avant,
OK,
etc. Des
d'accord.
choses comme ça.
Ouais.
Après, c'est comme Monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir chez Molière. Moi, à l'époque, je faisais, sans le savoir, je faisais de la visualisation déjà.
OK.
Et donc, je vais me livrer là-dessus. Par exemple, quand j'étais défenseur central dans le vestiaire, avant de sortir, je m'isolais, je fermais les yeux et je voyais toujours la même image. C'est-à-dire, je voyais un ballon aérien, je voyais le numéro 9 en face et je le défonçais. Voilà, et je le défonçais. Et je renvoyais le ballon de la tête quand même. Mais par contre, je renvoyais le ballon et le joueur, je l'explosais. Et là, ça y est, pour moi, c'était parti, quoi. Mon match
Ok,
était parti.
d'accord.
Et
Donc en fait, ouais, tu te canalisais de sorte à avoir en toi une forme une forme de rage qui te permettait de rentrer dans ton match.
parce que j'ai pas une nature comme ça.
Ok.
Donc ça, j'en ai pris conscience très vite. Et que sur le terrain, sans faire n'importe quoi et devenir une bête. Voilà, donc je me répète sans le savoir, j'ai fait de la visualisation très vite.
D'accord.
Et comme je m'imposais ça, à un moment donné, ben, s'est imposé à moi cette même image qui revenait de manière récurrente. Voilà.
Ok.
Au début, j'en avais plusieurs. Je me concentrais sur, je sais pas, sur une frappe, une reprise de volée. On a tous rêvé d'un ciseau retourné, des choses comme ça. Et puis je me suis aperçu. Progressivement, il y en a une qui s'installait, c'était toujours la même. Et celle-là,
Ouais.
sincèrement, elle m'a accompagné pendant 9-10 ans, cette image, à chaque
Ok.
match, à chaque
Ok.
match.
Et est-ce que tu fais en sorte de transmettre justement ce que là, tu es en train de m'expliquer? Tu le transmets aujourd'hui à tes joueurs? Tu leur invites
Ouais.
éventuellement à avoir peut-être ce réflexe-là pour certains qui pourraient bah voilà se sentir sensible à ça.
Ouais, d'ailleurs, ça les fait rire, parce que quand je parle de au groupe ou à un joueur en particulier pour rentrer pleinement dans la partie, j'évoque toujours cette anecdote. Je dis
OK.
voilà ce que je faisais. Je ne sais pas si ça va te convenir. Donc j'essaie d'apporter d'autres voix si ça ne rend pas avec la personne ou avec le groupe.
Ouais.
Mais ouais, non, là-dessus, c'est pareil comme sur les tirs au but. Je fais toujours en sorte que quand on par exemple en Coupe de France, c'est une série de tirs au but, de jamais penser à l'incidence du tir au but, mais juste au tir au but, comment je l'exécute, où je la mets, voilà, et de penser qu'il n'y a pas de gardien.
OK.
À certains niveaux, sur les niveaux où je suis intervenu, quand des joueurs qui veulent faire comme les grands, ralentir la course, attendre le dernier moment, savoir si le gardien va bouger, pas bouger, il y en a qui arrivent, mais la majorité, voilà, n'ont pas cette maîtrise-là.
Ouais.
Donc, c'est de visualiser ses protocoles au niveau technique, sa course, et rester uniquement là-dessus. Donc, oui, de manière récurrente, il y a des leviers que j'utilise comme ça auprès
Okay.
des groupes, dont j'ai la responsabilité.
Alors justement, basculons tranquillement vers la transmission. Toi, étant aujourd'hui entraîneur, t'es passé de cette étape de joueur à entraîneur. Déjà, comment est-ce que tu as su en tant que joueur que tu allais basculer vers ce métier d'entraîneur? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on t'a contacté? Est-ce que c'est toi, volonté de poursuivre dans cette voie-là par toi-même?
Pareil, les choses se sont installées d'une manière tranquille et sur la durée.
Ouais.
En étant déjà à l'UREPS, je sentais que j'aimais transmettre. Voilà.
Ouais,
Au
ok.
début, c'était peut-être l'enseignement, voilà. Puis je me suis vite tourné vers l'entraînement plutôt que l'enseignement. Et donc j'ai commencé déjà à passer mes diplômes. Quand je suis en 1987, par exemple, je m'occupais des minimes déjà du Serre Paul-Bert Nord-Ouest de Rennes. Voilà, j'ai démarré finalement assez vite. Et puis voilà, et puis jusqu'à passer mes diplômes, mon premier degré, j'étais joueur à Mulhouse, parce que tout à l'heure tu me parlais des clubs, mais j'ai pas fini ma carrière de joueur pro à Saint-Brieuc, mais au FC Mulhouse.
Ah, c'était. J'étais. Alors attends, j'étais persuadé que justement Mulhouse était intervenu avant Saint-Brieuc, moi.
Ben, non, non, parce que j'ai quitté le Stade Briochin quand le club a été liquidé. On était en deuxième division à Saint-Brieuc. Le club a été liquidé, liquidation judiciaire. Donc, je suis parti à Mulhouse, où j'ai rejoint justement Gilles Bourges, dont je parlais tout à l'heure, qui est un
Ok.
Ginglinais et qui est donc, je me répète, l'entraîneur adjoint aujourd'hui d'Olivier Frappouilly à Laval et qui était
Ouais.
entraîneur principal à Mulhouse.
Ok,
Donc, il m'a fait
d'accord.
venir à Mulhouse. Et d'ailleurs, même après Mulhouse, je devais signer à Sion avec Olivier Rouillet. Qui lui m'avait fait venir à Nancy, mais comme la première journée de reprise de l'entraînement, il s'est fait écarter, et c'est là que l'Aspa Bologna, qui était au centre de formation de Nancy, a pris l'équipe. Et Olivier, malheureusement, je crois que je lui ai porté la poisse, parce que quand il était à Sion, donc on se met d'accord aussi, donc il me proposait un contrat de 3 ans, j'avais 32 ans à l'époque, pour
Ouais.
aller en Suisse, donc à Sion avec lui. Et
Ouais.
au mois de juin, je suis en vacances chez mes parents, il m'appelle, donc je pensais que c'était pour finaliser la dimension contractuelle, et puis il me dit, bah, écoute, tout est tombé à l'eau puisque je viens de me faire lourder. Et donc c'est paru dans la presse chez moi.
Oh merde.
à Saint-Brieuc. Et donc, c'est là que les dirigeants de Saint-Brieuc, bah, qui me connaissaient, parce que 2 ans avant, j'étais un joueur du Stade Briochin en deuxième division, m'ont demandé si je voulais pas franchir le pas, quoi, enfin, de devenir entraîneur. Donc, je les ai rencontrés, j'ai mis 48 heures à réfléchir et à 32 ans, j'ai décidé d'arrêter de jouer et d'entraîner. Donc, j'ai démarré l'entraînement en 1999 au Stade Briochin. Voilà comment les choses se sont. Même si je m'étais préparé, je m'attendais pas à 32 ans d'entraîner. J'avais passé
J'imagine.
mon diplôme quand j'étais à Mulhouse et donc j'ai passé très vite mon par équivalence mon deuxième degré parce que j'avais une licence STAPS, ça permettait de gagner du temps sur le brevet d'État deuxième degré.
Ouais.
Et dès 2000 ou 2001, j'ai passé mon DEF, qui est mon diplôme actuel. Je l'ai passé très vite.
Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de ton premier match en tant qu'entraîneur?
Ah bah, la
Est-ce que
victoire.
déjà il t'a marqué? Bah, non,
Oui,
mais.
la victoire 5-2 à l'US Montagnard.
Ouais.
Je me souviens de mon premier brief, comme si c'était hier, dans un hôtel en périphérie de Lorient,
Ouais.
d'avoir bouffé, je sais pas, 5-6 feuilles de paperboard, d'avoir extrêmement détaillé ma causerie, parce que ça avait un côté rassurant pour moi, certainement, ce jour-là.
Bien sûr.
Mais je me souviens des dirigeants, Pierre Stéphan, Dominique Sangan, qui est par ailleurs mon parrain, mais qui était dirigeant de l'équipe aussi. J'ai toujours de la famille au sein du Stade Briochin. Les joueurs, l'équipe, on avait joué en 3-5-2. Enfin, je me souviens de tout, et on gagne 5-2.
Ok. C'est quoi là, j'ai comment Pierre-Yves David gère ses émotions sur un banc de touche? Est-ce que c'est une pierre froide? Est-ce que c'est un entraîneur qui exulte sur un but? Comment est-ce que tu fonctionnes? Est-ce que tu es quelqu'un de calme dans la transmission de tes consignes? Comment tu fonctionnes?
Je suis relativement calme. Après, il y a des choses qui peuvent me mettre hors de moi
Les replis
sur
défensifs?
les avec des joueurs, c'est pas trop. Non, c'est plutôt
Ok.
parfois sur les décisions arbitrales, l'état d'esprit général. Enfin, quand je sens qu'il y a de la malveillance, voire de la malhonnêteté, qui me semble entre guillemets volontaire, ça m'insupporte au plus haut point.
Ok.
Et dans ces cas-là, je ne peux pas me taire, je le dis.
D'accord.
Et j'ai, alors avec mes mots, mais je le dis, je me fais bien comprendre généralement. Et ça n'a pas toujours plu, parce que ça m'a valu de me faire sortir du terrain parfois. Mais c'est cette dimension-là. Voilà, par exemple, des collègues entraîneurs qui réclament des cartons. Pour un de mes joueurs, je supporte pas ça. Les mecs qui réclament des cartons pour l'équipe adverse, ça m'insupporte. Hein. Donc ça, c'est
D'accord.
pareil, je le fais savoir. Alors comme
OK.
le dernier exemple, c'est un pote, il est entraîneur à Milizac, je lui avais dit, puis il me dit, ok, Pierrot, t'as raison, ça se fait pas, ça se fait pas. Donc j'espère que lui, maintenant, il a arrêté de réclamer.
De faire ça.
Voilà, ce sont plutôt des choses comme ça qui vont me faire être hors de moi. Après, dès l'instant où je sens mon équipe en adéquation avec ce que l'on souhaite exprimer, que ce soit dans l'utilisation du ballon, dans sa manière de le récupérer, même si le résultat n'est pas bon, mais on est raccord sur ces principes-là, il n'y a pas de souci. Voilà,
OK.
j'ai toujours eu, je pense, et ça fait partie de mon management, de la considération et du respect pour toutes les personnes, quel que soit leur statut, parce que tous les statuts, les joueurs, les dirigeants, dans un club, quel que soit le statut, il est hautement respectable et hautement indispensable. C'est-à-dire que
OK.
même la personne qui lave les maillots, et pour moi, voilà, donc c'est d'avoir dans le management, à tous les étages du club, d'avoir cette considération et ce respect, et c'est le meilleur moyen d'instaurer une dynamique de groupe derrière et une démarche commune à l'ambition que l'on défend.
Bien évidemment. Je te parlais de ta personnalité à toi. Là, j'ai envie d'étendre ça justement, notamment pour le coup à tes joueurs, hein, que tu as pu encadrer pendant ta carrière d'entraîneur. Aujourd'hui, il y a, alors je vais utiliser le terme de management. Je pense que ça peut être bien, ça peut correspondre. J'imagine qu'il y a une vraie évolution entre le management d'il y a, je sais pas, 15-20 ans et le management d'aujourd'hui. Comment ça se gère, des joueurs? Parce que Enfin, t'as forcément une manière différente de gérer un joueur qui est en difficulté, un joueur qui a très fort potentiel, un joueur qui est même en pleine bourre. Hein, on l'encadre aussi d'une manière spécifique. Comment est-ce que toi tu gères ça et est-ce que tu vois une vraie différence entre le management actuel et le management d'il y a, allez, 15 ans, pour pas remonter plus loin?
Alors, il y a une grosse différence. Je prends toujours le même exemple. Il y a 20 ans en arrière, tu avais investi avec 20, 22 joueurs.
Ouais.
Si à l'intérieur, tu avais une, deux, un petit peu dure brebis galeuse,
Ok.
le vestiaire se chargeait de remettre les deux personnes sur le droit chemin.
En place, ouais, d'accord.
Aujourd'hui, sur la même configuration, les deux brebis galeuses peuvent te faire imploser le vestiaire.
Ok.
Voilà. C'est-à-dire que dans la vie de vestiaire, la dimension collective s'est grandement atténuée. Donc moi, dans mon management, c'est justement d'essayer d'amener le groupe vers cette dimension collective, sur cette démarche commune. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, en les considérant tous, mais je le dis très vite, je sais qu'en début de saison, parce qu'un joueur mesure la confiance d'un coach au temps de jeu qu'il a. Et donc très vite, dès ma prise de contact avec le groupe, je fais comprendre que cette dimension-là, chez moi, n'existe pas. Si déjà ils sont dans le groupe de 20 ou 22, c'est que j'ai confiance, c'est que le
Bien
club a
sûr.
confiance en eux. Après, c'est ce qu'on appelle l'émulation, la concurrence qui va faire que. Après, je ne connais pas un entraîneur qui va choisir de mettre en place une équipe en espérant perdre. Ça n'existe pas. Donc il faut faire comprendre tout ça aux joueurs. Après, c'est pas parce qu'on le fait qu'on a raison. Des fois, on se trompe. Et je me suis trompé certainement très souvent. Mais il faut donner cette perception-là aux joueurs. Et que dans le groupe, je parlais de statut tout à l'heure, dans le groupe de joueurs, je parlais pour l'ensemble du club tout à l'heure, mais dans un groupe de joueurs, dans un effectif, c'est la même chose. Chaque joueur a un statut. Et ce statut est, à mes yeux, hautement respectable et hautement indispensable. C'est-à-dire, je vais prendre un joueur qui joue très peu, et qui est complètement investi dans l'entraînement, mais ton choix, match après match, reste sur un autre joueur qui occupe le même poste. Si le joueur qui s'investit pleinement et qui ne joue pas cesse de s'investir, il faut lui tendre parfois la perche, hein, le faire jouer. Alors des fois, c'est en faisant rentrer des paris, parfois les matchs de Coupe de France qui permettent de
Donner du
c'est
temps
pas
de
de la
jeu.
ouais c'est du temps de jeu parce que on n'est pas dans un système, ce que j'ai toujours de management, on n'est pas dans un système punition récompense. Un joueur qui joue n'est pas récompensé, un joueur qui ne joue pas n'est pas puni. Et il y a bien souvent des matchs que l'on gagne grâce à un banc de touche, et ça aussi c'est des notions qu'il faut que le groupe ait en tête. Donc ces fameux statuts. Et sur l'exemple que je donnais, c'est que le garçon, si au bout de 3 à 4 matchs, alors que ses semaines d'entraînement sont excellentes et qu'il ne joue pas, il faut lui donner l'opportunité de jouer, effectivement. Mais si on n'a pas la possibilité de le faire, c'est de lui faire prendre conscience que, et ça joue sur son concurrent.
Bah décidément, Radio Roazhon et
Lui, s'il
ah, c'est
performe
bon.
pas. Et s'il performe pas, et donc le fait que ce garçon-là soit très investi pousse aussi l'autre à être meilleur.
Ouais.
Donc bon, donc rien qu'à travers cet effort-là, il est indispensable à la performance de l'équipe, même s'il ne joue pas. C'est
OK.
ça, c'est son investissement et son engagement et son niveau de performance à l'entraînement qui
OK.
fait que le joueur avec qui il est en concurrence, ben, soit va être débouté de sa place, soit au contraire va continuer lui aussi à progresser parce qu'il sent que le vent du boulet, quoi. Et donc
Bien sûr.
c'est un cercle vertueux qui s'installe comme ça. Mais voilà, mais par contre, on ne peut pas. C'est pour ça que je suis pour des effectifs. Il faut bien mesurer son effectif. Je
C'est très
considère,
dur.
voilà, il faut bien mesurer numériquement et qualitativement son effectif de façon à éviter ce genre de
De
problème.
problèmes. Ok.
Ouais.
Comment est-ce que tu te tiens à jour, toi, des évolutions du foot, notamment pour améliorer ton coaching?
Ben là, je suis là, c'est mon actualité, puisque comme je suis sans club, là, je suis des sessions qu'on peut assimiler à des formations. C'est simplement du au-delà des formations, c'est surtout du complément aux compétences qui sont les nôtres. On est 11 entraîneurs actuellement en France, là, regroupés par l'UNECATEF. On est réunis une semaine par mois. Entre chaque semaine par mois, on a aussi des rendez-vous avec nos intervenants en visio à titre individuel. Voilà, donc ça va de la langue étrangère au média training, à l'analyse vidéo, à la construction de projets, à l'informatique aussi, sur la bureautique en général. Par exemple, moi, à titre personnel, sur Excel, j'avais de grosses lacunes. Et voilà, on a même à 57 ans, on s'y colle. Et voilà. Et puis après, c'est aussi profiter de cette période sans activité pour aller voir les autres travailler, les autres jouer, chose qu'il est impossible de faire quand tu es en
Quand tu es
poste,
en poste, bien sûr.
parce qu'on est dans un rythme effréné entre les entraînements, la compétition, et ça, c'est d'autant plus marqué qu'on évolue à des niveaux supérieurs. Donc
J'ai presque l'impression d'entendre dans ton propos presque une forme de pas de soulagement, mais c'est pas trop mal des fois d'être sans club. Je me trompe
ouais.
ou...
Non, non, ouais, alors c'est pareil, c'est lié à la nature de chacun, on en parlait
Ouais.
tout à l'heure. Moi, c'était pas prévu que je me retrouve sans club, parce que moi, il me restait un an de contrat à Chartres l'année dernière,
Ouais, tout à fait.
simplement avec la rétrogradation du club par la DNCG en R1. Et puis voilà, je parlais de Perpignan en tant que joueur tout à l'heure, c'est pareil, à Chartres, en tant qu'entraîneur, je me sentais pas à ma place. Voilà, j'ai quitté Fougères pour Chartres parce que j'avais déjà œuvré à Chartres, donc des gens souhaitaient que je revienne, mais entre mon premier passage qui précédait mon arrivée à Saint-Malo, c'est-à-dire que j'étais au FC Chartres de 2009 à 2011, il y avait deux clubs à l'époque à Chartres, et donc il y a 6-7 ans en arrière, à la demande de la mairie, les deux clubs en question ont fusionné. Donc le FC Chartres Football est devenu une grosse machine, puisqu'il doit y avoir 1100 et quelques licenciés. Et avec beaucoup de moyens, des moyens pour bien connaître les niveaux du N1 jusqu'au N3, puisque ça fait 24 ans que j'interviens sur ces niveaux-là, j'ai jamais vu un club avec autant de moyens. Mais après, qu'est-ce que tu fais des moyens en question? Je parle des moyens financiers. Voilà, tout ça pour arriver à une rétrogradation en R1 avec un déficit de 800 000 euros, quasiment 800 000 euros. Voilà, donc. Avec tous ces éléments-là, je me suis pas senti à l'aise et donc j'ai été voir le président et le vice-président et je leur ai dit que je ne ferais aucun problème et que je leur faisais don de ma dernière année
De
de contrat,
contrat,
mais
ouais.
que j'ai quitté le club quoi qu'il arrivait. Voilà.
D'accord.
Donc ça s'est fait en dernière minute, j'ai pas pu
Ouais.
embrayer sur un nouveau club. Donc le côté positif, c'est que ça m'a permis de participer à 10 mois vers l'emploi, ça s'appelle des MVE, les sessions organisées par l'UNECATEF, et
Ouais.
puis de me remettre à niveau sur certaines choses, ça fait du bien, et puis de voir les autres travailler.
OK.
Mais là, de toi à moi, aujourd'hui, j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Là. Ça fait deux mois et demi, 3 mois que ça me démange grandement.
Bah justement, vu que tu es sans club depuis ton départ de Chartres l'été dernier, c'est quoi pour toi aujourd'hui tes objectifs? Ce serait retrouver un poste en tant qu'entraîneur principal en France ou ailleurs, peut-être d'ailleurs. Vers quoi tu te. Enfin, ouais, quel est un peu ton horizon?
Ben aujourd'hui, puisque je n'ai pas pu accéder au BEPF, là aussi, un des regrets, on parlait de regrets tout à l'heure, c'est
Ouais.
qu'en 2006, lorsque j'étais entraîneur à Châtellerault, je m'étais présenté, j'étais accepté. Et comme au mois de juillet, le club était à l'époque en CFA, et on a appris qu'on basculait au titre des meilleurs deuxièmes de CFA en National 1, parce que le Racing de Paris était rétrogradé par la DNCG. Et à l'époque, il y avait 20 clubs en N1. Et moi, j'avais un effectif de 18 joueurs, dont deux gardiens. Donc voilà, je me suis retiré de la session. Et mal m'en a pris, puisque l'année d'après, j'ai repostulé. Alors, je me suis retiré parce que je croyais que la charge. J'ai pensé avant tout au club et à
Ouais,
mon
bien sûr.
effectif. Pensé au recrutement, bien géré. Je connaissais pas à ce moment-là le championnat national, découvrir les équipes. Je m'étais mentalisé à démarrer un championnat de CFA.
Ouais.
Et puis voilà, dans l'urgence, il a fallu faire beaucoup de choses, appréhender ce championnat-là, recruter de manière supplémentaire, parce que comme il y avait 20 équipes, il y avait à l'époque beaucoup de semaines à 3 matchs. Voilà, donc j'ai pensé au club, j'ai pas pensé à moi à ce moment-là. Et l'année suivante, j'ai recandidaté, et puis là, j'ai reçu un courrier en recommandé me disant que je remplissais pas les critères. Donc voilà, j'étais grandement surpris. Voilà, et puis il y a quelques années en arrière, le diplôme professionnel a été imposé sur le championnat national. Donc comme je n'ai pas ce diplôme-là, j'ai essayé de me représenter, mais là, j'ai pas été pris. Par contre, il y a 5, 6 ans en arrière, je crois, j'étais encore à Saint-Malo à l'époque. Voilà, et puis comme c'est en termes de budget, c'est un diplôme qui vaut très cher, même si on a des aides à la formation. Aujourd'hui, à mon âge, je ne vais pas mettre ces sommes-là dans une formation. Voilà, je vois, j'ai des copains qui ont ce diplôme-là et qui sont sans club. Voilà, je me demande si le jeu en vaut vraiment la
Ah, vaut vraiment la
chandelle.
chandelle, ouais.
Mais sauf que ça me bloque dans mes domaines d'intervention, parce que là, je suis condamné à entraîner pas plus haut que le National 2. Donc, je recherche principalement du National 2, mais comme on est en pleine réforme des championnats fédéraux, l'année prochaine, il n'y aura que 3 poules de N2 avec 16 équipes, certes. Mais voilà, puisque sur 3 ans, la réforme des championnats fédéraux, je crois, entre le N1, N2 et N3, c'est 76 clubs qui disparaissent. Donc, 76 postes d'entraîneurs entre le N1, N2, N3 qui disparaissent aussi. Et pour les joueurs,
C'est
c'est la
clair.
même.
Les places sont
Donc,
très
les places
chères,
sont chères.
effectivement.
Voilà.
Ouais. J'ai envie de terminer tranquillement cette émission avec toi, Pierre-Yves, en te parlant un petit peu d'un tacticien que tu connais bien, qu'on connaît tous bien ici, qui est Julien Stéphan. Hein, on va faire un petit mot sur le Stade Rennais. Je serais curieux de savoir le regard que tu portes sur son retour et quelle évolution notable tu peux voir, si tu en vois une, entre, même si je me doute que tu en vois une, entre son passage de 2019 à 2021 et son passage pour l'instant aujourd'hui.
Alors, pour apprécier Julien, c'est difficile pour moi puisque ça a été un de mes joueurs quand j'étais entraîneur du Stade Briochin. Donc, j'ai une grande affection pour lui. On se contacte régulièrement. Depuis qu'il est entraîneur professionnel, je sais la charge qui est la sienne et celle de tous les entraîneurs de ce niveau-là. Donc, j'évite de l'embêter. Je crois que une des dernières fois où je l'ai eu au téléphone, c'était, je lui ai demandé si effectivement je pouvais accéder à ses entraînements. Il m'a répondu bien évidemment que oui, mais je l'ai toujours pas rappelé pour pas toujours pas l'embêter, parce qu'il a des échéances voilà qui sont importantes et un rythme de travail qui est énorme.
Ouais.
Mais je pense qu'avec les beaux jours là, je vais
Tu vas
sortir ma
pouvoir.
carcasse, et ouais, je pense que je vais le rappeler à ce sujet-là.
Ah, c'est
Donc
génial.
j'ai forcément un regard bienveillant pour Julien, parce que et pour le coup, je me remémore aussi toute cette génération-là, parce qu'il y a Julien Stéphan, mais dans l'équipe, il y avait aussi Maxime Dordano, qui est entraîneur du FC Rouen actuellement, Guillaume Alanou, qui est président, directeur sportif et entraîneur du Stade Briochin, d'autres comme Fred Marquet, qui est entraîneur adjoint à Dinan. J'avais toute une génération de garçons là qui beaucoup sont devenus des entraîneurs. Alors pas tous au très haut niveau, mais beaucoup sont devenus entraîneurs. Donc pour revenir sur Julien. J'étais très content qu'il revienne après le départ de Bruno, même si je faisais partie de ceux qui espéraient que Bruno puisse rester et redresser la barre suite au mauvais début de saison. Mais quand j'ai su que c'était finalement Julien qui revenait, j'étais très très content, et j'étais intimement persuadé qu'il allait relever le challenge. Voilà, parce qu'il connaît bien la maison. Alors pour faire le comparatif entre son premier passage, je pense que son premier passage, il avait rien à perdre quand il a démarré, parce que de mémoire, il devait jouer Lyon, je crois, le premier match.
Ça, exactement, ouais, tout à fait.
Et puis, il n'était pas prévu qu'il reste. Et puis, avec Mathieu, qui sortait de la préformation du Stade Rennais, le Scornet, et lui, enfin, voilà, ils sont rentrés dans une dynamique de résultats. Et puis, finalement, ils se sont installés au poste, qui était normalement un poste provisoire en ce qui les concerne. Donc, là, son arrivée, la perception est complètement différente. Après, sur le fond, je pense que l'engagement, l'investissement en termes de travail est le même. Voilà, il est le même. Après, oui, Julien s'est certainement bonifié. Je pense que c'est quelqu'un qui est très à même de s'adapter, notamment être très fort dans l'analyse des adversaires et comment contrecarrer l'adversaire. Il faut qu'il le garde. J'espère qu'il va aussi s'affirmer encore davantage sur l'expression collective d'une manière constante liée à son équipe, même si là aujourd'hui on en voit les. On peut
Aux
constater
prémices un
déjà
petit peu.
des gros points là-dessus, ouais. Mais c'est pas forcément ce qui le caractérisait au début. Voilà. Donc là, on sent qu'il a mûri son projet de jeu, sa façon de voir s'exprimer son équipe. On sent qu'il y a des choses qui apparaissent de manière récurrente, là, qui sont bien ancrées dans sa façon de travailler, dans sa manière de défendre, de bouger un peu les systèmes. Mais il y a des constantes qui se dégagent et je pense que sur les 2, 3 ans qui viennent, il va complètement s'affirmer de ce point de vue-là. Mais il aura toujours la capacité à s'adapter, qu'il a toujours eue, à l'adversaire. Si les principes qu'il souhaite voir défendre par son équipe ne sont pas suffisants, il aura cette dimension-là. Et dans 2, 3 ans, ce sera certainement un des plus grands coachs français, ça j'en suis sûr.
Ok. Alors, tu dis d'ici 2-3 ans, tu le vois perdurer au club, toi, Julien Stéphan? Tout laisse à penser effectivement que il sera éventuellement poursuivi, enfin prolongé pour une nouvelle aventure. Bah après, enfin, dans tous les cas, on peut rien affirmer, mais en tout cas, la tendance actuelle pourrait laisser penser effectivement que ça aille dans le bon sens pour lui. Mais tu le vois éventuellement refaire un nouveau cycle au Stade Rennais?
Je souhaite qu'il fasse un nouveau cycle au Stade Rennais. Un, pour le Stade Rennais. Deux, pour lui, par rapport à ce que je viens de dire, parce que je pense qu'il va pouvoir mûrir les choses dans sa façon d'appréhender son rôle de coach. Et derrière, je lui souhaite et je suis intimement persuadé qu'il aura un gros, gros club européen.
D'accord. T'as une idée?
Voilà. Aucune.
Aucune.
Ça, c'est ce que je ressens. Je sens que les 2 ou 3 ans, là, il faut absolument qu'il reste au Stade Rennais.
Ouais.
Voilà. Et il va performer avec le Stade Rennais. Voilà, lui, il en sera gagnant, mais le Stade Rennais sera gagnant aussi. Et je pense que derrière, il y aura un club de pointure supérieure qui viendra le solliciter. Et ce sera une bonne chose aussi pour le Stade Rennais parce que, bah, à un moment donné, les cycles, on peut pas tous faire du Giroud, du Ferguson, ad vitam aeternam,
C'est pas viable.
c'est plus dans l'air du temps. Mais aujourd'hui, le Stade Rennais a besoin de Julien et Julien a besoin du Stade Rennais.
C'est un joli mot de la fin pour conclure cette émission, Pierre-Yves, merci.
Mais ça a été un plaisir.
Le petit hommage à Julien Stéphan pour conclure tout ça. C'était très intéressant, très enrichissant. Je te remercie encore une fois d'avoir accepté d'échanger avec moi sur le football, sur toi, sur ton passé et ton actualité également. Donc voilà, cette émission pour celles et ceux qui nous ont écoutés est terminée. Je vous remercie hein, de nous avoir écoutés. C'était très très intéressant. Vous pourrez la retrouver bien évidemment, comme d'habitude, sur toutes les plateformes de podcast. Vous êtes très nombreux à les écouter et on vous en remercie. C'est un vrai, vrai plaisir. Donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et tous une bonne soirée, une bonne semaine. On va se retrouver bientôt sous les ondes de Radio Roizen, normalement dès dimanche, pour débriefer, on l'espère, une victoire face à l'Olympique de Marseille. Match déjà décisif dans la course à l'Europe du Stade Rennais. On croise les doigts. Merci encore une fois, Pierre-Yves. Je te souhaite une
Merci
très
à
très
toi,
bonne
Léo.
soirée. Je te garde 2 petites secondes après la coupure. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée. Puis je vous dis à très bientôt sur les ondes de Radio Roizen. Ciao, ciao tout le monde. Bye.